Chapitre 12. Oignon émincé, ail pressé. Un geste du poignet, la lame du couteau racle la planche à découper et le tout glisse dans l'huile chaude avec un crépitement. Sur l'antique cuisinière en fonte est posée une vieille cocotte le creuset orange dans laquelle chaque soir, Grace fait revenir la sauce tomate qui accompagne ses pâtes. Chaque soir, la même cocotte, les mêmes ingrédients, le même repas. Avant, Grace cuisinait vraiment, elle est d'ailleurs plutôt douée. Mais avec le temps et la solitude, son large éventail de recettes s'est réduit comme peau de chagrin, passant au fil des ans à une poignée de plats récurrents, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. À une époque, Grace préparait à manger en écoutant la radio, mais elle a fini par arrêter. Elle ne pourrait pas retrouver la date précise de ce changement. Elle sait juste qu'il s'est produit le jour où le réconfort d'entendre d'autres voix dans la pièce n'a plus suffi à faire oublier l'affreux vide qui le remplaçait au moment où elle éteignait l'appareil avant d'aller se coucher. Aujourd'hui, le silence qui hante la maison depuis le départ de Becker résonne comme un glas. Sur le seuil de la porte, elle lui a serré la main une demi-seconde de trop. Vanessa, elle, touchait tout le monde. Au début, Grace s'en offusquait. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui prenne aussi facilement la main ou le bras. Mais elle s'est rendue compte que, de manière générale, ses gestes d'affection étaient plutôt appréciés. Elle voyait les gens se détendre au contact de l'artiste, se laisser attirer dans son orbite. Grace n'a jamais réussi à obtenir un tel effet chez ses interlocuteurs. Becker va conclure qu'elle est bizarre, qu'elle est triste. Une vieille femme esselée et craintive, voilà ce qu'il va penser d'elle. Il n'aura pas tort, au fond. Après dîner, elle se rend à l'atelier. Le faisceau de la lampe torche braqué sur le sol, elle fixe ses pieds en s'efforçant d'ignorer l'orée de la forêt et les ténèbres qu'elle dissimule. Pourquoi aurait-elle peur de toute façon? Oui, il y a des fantômes dans ces bois. Mais quand on y réfléchit, il y a des fantômes partout. Dans l'atelier, en haut du rocher, dans la chambre de Vanessa, et ici même, sur ce sentier. Si elle s'en écartait de quelques mètres, elle verrait le couvercle en béton de la fosse septique qui a fait trébucher Vanessa, et là aussi, les spectres ne manqueraient pas de faire leur apparition. Grace ouvre la porte de l'atelier, allume la lumière, et tire de sous une étagère un radiateur électrique qu'elle s'empresse de brancher. Après quoi, elle referme la cloison sur rail et pousse le verrou. La voilà en sécurité. Avec Monsieur Becker, elle s'est sentie rassurée. Ridicule, non? D'abord, il l'a effrayée, puis sa présence l'a rassurée. En soulevant le couvercle d'un carton, elle songe que c'est le genre d'homme qui vous aide à porter vos courses jusqu'à votre voiture, qui vous donne un coup de main si vous devez déplacer un gros meuble, qui attrape pour vous la casserole rangée trop haut dans la cuisine, qui intervient s'il voit que vous avez un problème. Est-ce qu'il aurait plu à Vanessa? Grace pense que oui. L'artiste avait horreur des critiques, mais elle adorait les passionnés. Elle lui aurait souri, l'aurait séduit, l'aurait pris par le bras ou la main. Elle était si tactile, si prompte à caresser, à étreindre. Tout ce qu'on a écrit à son sujet, sa supposée froideur, son arrogance, ces journalistes ne la connaissaient pas, pas réellement. Vanessa savait se montrer chaleureuse avec les gens qu'elle appréciait. Simplement, il y en avait aussi qu'elle n'aimait pas. James Becker lui rappelle quelqu'un. Mais oui, voilà qui explique pourquoi elle se sent étrangement proche de lui. Il a quelque chose de Nick Reilly, ce garçon qu'elle a connu à l'université. Comme chez Nick, on perçoit chez Monsieur Becker une courtoisie sincère et il respire l'intégrité. Il y a même une légère ressemblance physique, cette peau laiteuse, ses longs cils pâles. Est-ce pour cette raison qu'elle ressent soudain un violent point de côté qui la force à s'agripper à l'établi pour reprendre sa respiration? Est-ce pour cette raison qu'elle est submergée par une incompréhensible vague de chagrin? Parce qu'il lui fait penser à Nick, qu'il l'a abandonnée? Est-ce pour cette raison qu'elle a menti à Monsieur Becker? Parce qu'elle voulait qu'il ait une bonne opinion d'elle? Parce qu'elle voulait lui faire plaisir? Car elle a vu ce garçon dont ils ont parlé, le touriste canadien qui a chuté dans la mer. Elle était dans la cuisine quand il est passé devant la maison. Il l'a aperçue par la fenêtre, a souri et l'a saluée. Si jeune, elle aurait pu courir à sa suite et le prévenir, lui dire de faire attention là-haut. On ne peut pas sauver tout le monde. Grace se dirige vers le fond de l'atelier, s'agenouille et ouvre un placard. Il y avait une boîte avec des ossements là-dedans, non? Peut-être même plusieurs. Elle tâtonne dans l'obscurité et met la main sur un coffret en palissandre. Voilà, on y trouve quantité de minuscules choses, des fragments sales et jaunissants. Grace y plonge les doigts, les attrape un par un. Ils sont si légers. Des os d'animaux, aucun doute là-dessus. Ces gens du musée de Londres se trompent. Elle en est convaincue. Il est hautement improbable que l'os provienne d'un corps humain. Elle referme le couvercle et se relève. Bien sûr, improbable ne veut pas dire impossible. Car ce malheureux Canadien n'était pas le premier à tomber du rocher. Et au fond, tout est possible. Un frisson parcourt la colonne vertébrale de Grace et elle entend la voix de Vanessa. « Je rêve que je fouille dans un tas de cendres. » Grace s'approche du four à céramique et en ouvre la porte. Vide. Lorsqu'elle se penche à l'intérieur, elle hume une légère odeur d'huile et de savon. On l'a nettoyée il y a déjà bien longtemps. Je peux vous assurer que cette œuvre est bien de Vanessa, à 100%. C'est ce que Grace a affirmé à Monsieur Becker au sujet de Division 2, et ce n'est pas un mensonge. Hélas, elle sait que ce n'est pas non plus totalement la vérité, car à cette époque, Vanessa était devenue folle. Elle se montrait cachotière, hostile. Même physiquement, elle avait changé. Elle avait le dos de plus en plus voûté, les yeux jaunes, et une odeur âcre émanait d'elle. Sous les yeux de Grace, elle se transformait peu à peu en quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre. Quelque chose d'animal. Elle restait assise toute la journée dans la cuisine, à fumer, et ne se déplaçait que le soir, une fois Grace couchée. Cette dernière entendait ses pieds nus sur le carrelage quand elle passait de pièce en pièce. Elle entendait claquer la porte d'entrée quand Vanessa sortait dans la nuit. « Où étais-tu ?» la questionnait Grace le matin quand Vanessa était de retour à la table de la cuisine, une cigarette aux lèvres. « Où étais-tu ?» Mais elle ne répondait pas. « Je rêve que je fouille dans un tas de cendres. Je fouille, et j'y trouve des ossements. » À moins que ça n'ait été plus tard. D'ailleurs, ce n'était pas du tout ce dont elle parlait à ce moment-là. Pourtant, Grace se demande si Vanessa a écrit au sujet de ses fameux rêves, quelque part dans ses milliers de pages de notes et de gribouillages. Si oui, Grace devra trouver ces passages et les éliminer. Grace a peut-être donné l'impression à Becker que les écrits qu'elle lui avait confiés avaient été sélectionnés au hasard, mais ça non plus ce n'était pas tout à fait vrai. Bien qu'elle n'ait pas eu le temps de tout lire, elle a pris soin d'inclure un carnet datant de l'époque où Vanessa et elle se sont rencontrées, et de ranger à part les plus récents. Elle a aussi ajouté quelques lettres envoyées par Douglas Lennox pour faire bonne mesure. Peut-être que quand le fils Lennox découvrira les horreurs qu'écrivait son père, il sera moins pressé de faire publier la correspondance de Vanessa. Il faudra jouer carte sur table un jour ou l'autre. Grace en a conscience. À Fairburn, on ne risque pas d'oublier l'existence des tableaux manquants. Elle sera bien obligée de fournir une explication au moins à ce sujet. Tout aurait été tellement plus simple si le tribunal des successions avait eu la bonne idée de rendre son jugement après la mort de Douglas plutôt qu'avant. Grace s'attaque au carton le plus proche. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il contient. Tout a été entassé au hasard. Journaux, photos, croquis, lettres, cartes postales, notes griffonnées, listes de courses. Grace s'attelle d'abord à un tri sommaire. Les carnets, le courrier et le reste. Ceci fait, elle passe à un deuxième carton, puis un troisième. Elle s'efforce de ne pas lire ce qu'elle manipule. Elle sait que si elle commence, toute sa belle organisation va capoter et qu'elle n'en verra jamais le bout. Cependant, par moments, c'est plus fort qu'elle. Ainsi, alors que ses yeux s'attardent sur l'encre bleue délavée, un G majuscule attire son attention, avec ses boucles généreuses et prometteuses. Ces derniers temps, le vent est doux et chaud. G et moi allons nous baigner à marée haute. C'est le paradis. Son cœur se radoucit soudain et ses yeux s'emplissent de larmes qu'elle essuie du dos de la main. Elle remonte au sommet de la page. G est en congé. Elle a choisi de rester ici. Je lui ai demandé si elle ne préférerait pas partir un peu, peut-être en vacances, ou voir sa famille. Elle m'a regardée comme si j'étais folle. Peu importe, j'en suis ravie. Le soir, on boit du vin. Et la journée, on va pique-niquer sur le rocher. Ces derniers temps, le vent est doux et chaud. G et moi allons nous baigner à marée haute. C'est le paradis.